Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère sur le 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère sur le 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère sur le 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère sur le 89.1 FM.
Éphémère 89.1.
Le sophrologue, vous le voyez?
Le sophrologue, non, parce que j'estime que c'est un type qui doit faire souffrir, comme son nom l'indique.
Non, au départ, il n'est pas fait pour ça.
Mais ça y ressemble.
Donc vous n'avez pas envie d'y aller?
Du tout, ni demain, ni après-demain.
Bonjour, vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 14 septembre 2013, nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae, c'est gay le reggae, avec... et à
17... Non, en fait ils sont en direct du festival de Ramonville, voilà.
Avec et à 17h, Éphémère, cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1, mais dans l'immédiat, voici le magazine Art de vivre, 70s, que vous attendez tous.
Dis donc, tu fais vraiment de la radio depuis 30
ans? Non, j'ai des fois, mais je suis mal réveillé, c'est pour ça.
D'accord, bon, je vais te montrer comment fait un professionnel. Avec la voix très fipienne, vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 14 septembre 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h. Du sport et sushi seront très élégants pour les résultats sportifs en direct des vestiaires à l'infirmerie. À 15h, Radio Éphémère sera en direct du festival de Ramonville jusqu'à 18h. Et après, ce sera nos amis, la radio de jeunes, Booster FM, sur les 89 MHz.
Mais tu crois que les auditeurs, ils ont envie de l'entendre deux fois?
Je ne sais pas, j'en ai rien à foutre. Et évidemment, le générique était parti tout seul, donc c'était pas bon. Allez, zou! Mais en attendant, de suite, eh ben, allons-y!
Précédemment, dans le
du
supplément.
Sport, merci, tu descends! Il paraît que c'est le ton que va prendre Plus belle la vie.
Mais ils en ont marre, les acteurs. On aimerait bien, mais bon. Mais il se passe déjà plein de trucs dans Plus belle la vie,
ouais,
quand même.
Ouais.
Il y a des trucs qui se passent jamais en France, quoi.
Et à l'origine.
Radio Éphémère présente. Le supplément week-end, le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique. Avec dans cet épisode du sport et d'un screech en direct des studios de Radio Éphémère.
Special guest Sylvain Esteb.
तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं
Enfin, même si ça se prononce, ça s'écrit Chaya Chaya, faut faire gaffe. Du sport qui me fait plaisir de se mettre en place. Seulement que maintenant, voilà, pour une fois, c'est un générique. On a fait un peu version longue pour essayer toujours pas le bon générique. Je vous rassure, il est en approche, il est en approche.
Mais là, après, on a le live de Oum Kalsoum au Caire en 1964. Donc, il dure 6 heures pour meubler.
C'est pas mal, ouais. Ça, et tu faisais comment? Tu retournais les cassettes?
Oui, voilà.
Bonjour à tous, bonjour
Duce. Ah, toi aussi, tu as essayé de l'enregistrer sur France Culture pour de sa diffusion.
Oui.
Et on a l'un des grands anciens de la radio que l'on apprécie beaucoup et qui nous apprécie aussi, enfin en tout cas j'espère.
Et oui.
Sylvain, qui est le mardi à
21h.
21h, oui.
Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un bouquin qui...
Bah oui, mais c'est pour
qui
ça.
Qui concerne aussi.
Eh bah, ben oui.
Eh ben bah oui, il est venu pour ça. On va parler effectivement de quelque chose. Si toutes les semaines on fait notre émission, si toutes les semaines on peut continuer, c'est pas seulement grâce à Internet, c'est pas seulement par la grâce de la démocratisation et de l'accessibilité à la technologie. C'est aussi que il y a eu à une époque des fous furieux, que cela soit des investisseurs, que cela soit des entrepreneurs, que cela soit des hippies, des allumés, et qui se sont dit, eh ben, c'est pas normal qu'il y ait que les grands groupes et que la radiophonie soit un monopole d'État. Il faut que nous aussi, on puisse inonder notre musique et vendre notre soupe, voire faire passer nos idées.
Ah, d'accord.
Que le peuple
pensait que t'allais oublier quelque chose de très important, qui c'est quand même la vocation hautement commerciale.
Ah, purement.
Ah non, mais non, je m'inscris en faux. Il y avait aussi des citoyens qui voulaient juste prendre l'antenne. Hein,
mais qui prenaient le pirate pour aller faire qui prenaient le bateau pour faire le pirate et tout.
Justement, sans chercher à faire du fric ni rien. Quoi.
Bon, on y reviendra.
Alors, on y est là, qu'est-ce qu'on fait?
On y est tout à l'heure.
L'argent, toi, ici
non, moi non plus.
En attendant, sur Radio FMR, donc, eh ben, sachez que nous avons plusieurs opérations qui sont en cours, notamment tout à l'heure, de 15h à 18h, nous sommes en direct du festival de Ramonville, suivi d'un Un Petit Appendice demain de 14 à 15.
Ah ouais, si loin, ouais.
Voilà, donc c'est Kinou qui est sur place, qui va réaliser et plein de choses. Il y a aussi le Fifi Gros. Le festival du film grolandais de Toulouse. Alors tous les 5 à 7, c'est-à-dire tous les programmes de 17 à 19h seront en direct de la Cinémathèque, si je ne me trompe, dans la cour, avec une prog musicale, musicale bien sûr, hein, puisqu'il y a les Ultra Sushi et tout.
C'est
ça,
même étonnant,
il
communique plus sur les concerts que sur les films.
Alors que sur les films, ma foi, ben, la prog est plutôt sympa. Du sport est dessus, d'ailleurs.
C'est drôle. Alors, je vais vous le faire à la Grolande, quoi. C'est-à-dire, tu prépares pas, t'en as rien à foutre, tu te bois 15 bières avant.
Mais t'as pas bu 15 bières avant.
Non. C'est pas grave, je vais faire comme si, quoi. Ouais. Alors bon, déjà, au niveau du jury, on est, c'est du lourd, hein, avec Dupontel, président du jury. Oui. Berroyer, bon, bah, ok, lui aussi, il vient profiter de la fête. Il s'est dit, on lui a dit l'année dernière, ah, putain, t'aurais dû venir à Toulouse, c'est trop bon, on était bourré du matin au soir pendant une semaine. Il s'est dit, ah, putain, ouais, je viens aussi. D'accord. Nathalie Coste-Cerdan, qui est directrice du pôle thématique cinéma à Canal+, c'est elle qui est en charge, des films un petit peu obscurs, des films qui viennent de pays qu'on savait même pas qu'ils faisaient du cinéma. Et bon, bah, c'est ce qui fait aussi que Canal est plus ou moins intéressant de temps en temps.
Alors, oui, regardez. Parce que là en ce moment c'est un peu pauvre.
Ensuite il y a Ovidie, que tout le monde connaît, surtout les garçons d'ailleurs.
Réalisatrice porno d'ailleurs. Elle s'est aussi lancée dans le documentaire et dans la fiction maintenant.
Et elle a écrit un ou deux bouquins déjà aussi, puisqu'elle est notée écrivaine. Ensuite on a Jean-Pierre Bouxiou. Alors là, il n'y a plus rien à dire là. Tout le monde se tait. Hommage, respect pour ce grand monsieur de plein de domaines, quoi. Il a surtout opéré dans le fantastique avec des revues un petit peu, on va dire, obscures et pas trop connues, qui parlaient de cinéma fantastique, qui parlaient de bouquins fantastiques et tout ça. Il a écrit je ne sais pas combien de bouquins sur ces sujets-là. C'est une somme, c'est une sommité en la matière, en les matières d'ailleurs. Donc, ça va être vraiment très très excellent. Ensuite, Noël Godin, bon, ok, on ne le présente pas. De toute façon, lui, il est parti. Alors, il fait partie du jury et il est également présent dans certains films qui sont diffusés. Bon, c'est normal.
Et il est l'interview qui a été faite dans les 5 à 7 l'an dernier avec lui était franchement, c'était vraiment un grand moment de n'importe quoi avec à côté
tout
une animatrice qui cuisinait de la saucisse quand même.
Tout à fait. Alors, et le dernier, et pas des moindres, on se demande ce qu'il fout là, mais vraiment il a droit à la parole, c'est Patrick Reynal, écrivain, éditeur, scénariste et journaliste, qui était patron de la série noire pendant une bonne quinzaine d'années, on va dire, quoi. Tranquille, si pas plus, hein. Mais bon, comme je dis, j'ai rien préparé, donc je vous dis ça complètement.
Je crois que c'est vraiment le petit plaisir de J.O. qui est l'un des organisateurs, hein. Ça faisait un bail qu'il voulait faire venir Reynal, justement. Donc, très potes ensemble, donc c'est absolument normal.
C'est un peu normal.
Voilà.
Non, mais c'est un monsieur respectable qui a également écrit plusieurs polars. Hein, dans la série noire, mais également dans d'autres maisons d'édition. Et après, on a comme d'habitude la compétition officielle avec 10 longs métrages inédits en France et 11 courts métrages pour 4 prix décernés. L'Amphore d'or récompense le prix du jury, l'Amphore du peuple, le film plébiscité par le public, l'Amphore des étudiants remis par un jury d'étudiants en cinéma de l'Essave. Ouais, ils ont traversé la route en fait. La rue du tort.
La rue du Thor qui est pas très 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 passante, hein, quand même. Non.
Et l'Enforêt, c'est-à-dire le court-métrage plébiscité par le public. Alors bon, c'est déjà sympa qu'il y ait deux prix qui soient décernés par le public. Parce que d'habitude, c'est toujours les professionnels de la profession qui décernent ce genre de prix. Hein, ou des gens qui, des fois, tu te demandes, quand tu vois le jury du Festival de Cannes, des fois, tu te dis, mais attends, pourquoi pas, mais bon. On va voir ce que ça donnait. Après, pour les films, j'ai regardé un petit peu vite fait. Bon, il y a beaucoup de films étrangers, alors que dans les versions précédentes, c'est-à-dire la version de l'année dernière et les versions qui avaient lieu un petit peu dans le nord de la France, dans oui, un petit patelin. Où c'était vraiment.
Ouais, ils en avaient fait trois avant.
Ouais, ouais, non, mais c'était vraiment bon, bah, de l'auto-satisfaction avec bon, bah, on diffuse les films qu'on a déjà tournés, nanana, on les met comme ça, puis dans le désordre, et puis ça passe. Hein. De toute façon, c'est pas ça le principal. Si, quand même, quoi. Et bon, là, ben, on a quand même de la nouveauté, comme dit, hein, des films inédits, New Kids Turbo, qui nous vient des Pays-Bas, Punk Syndrome, de Finlande. On a une collaboration germano-mexicaine avec Workers, avec quand même, bon,
ah, ça va le faire.
Oui, oui. Et le Wrong Cop de Quentin Dupieux. Il est son dernier film.
Monsieur
son
Oiseau. Dernier film.
Monsieur Oiseau, ouais, avec un casting qui, moi, bah, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, celui-là, je vais aller le voir quand même. Alors, Eric Judor, qu'il avait déjà employé dans Steak.
Ah oui, quand même.
Ouais, alors, wow. Eric Judor, mais là, le reste du casting, c'est carrément américain, avec Steve Little, Marilyn Manson, Grace Zabriskie, oh Ray Wise. Et là,
ah ouais,
tu te dis, bon, d'accord, peut-être qu'on va faire un tour. On a également des sélections, la sélection off, on va dire, hein, avec bah, la danse de la realidad d'un certain Alejandro Jodorowsky. Film qui est tout récent, quoi, hein, qui date de cette année. C'est également le cas du Au bord du monde de Klaus Drexel, qui est un documentaire. Tip Top de Serge Bozon, ça c'est un film français avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlin, François Damien, Samine Seri et Carole Rocher. La bataille de Solferino, un film français également, mais tout récent, hein, qui va sortir. Et La légende de Kaspar Hauser, alors c'est pas la version de Werner Herzog, non, non, c'est la version de David et Manouli avec Vincent Gallo, Silvia Calderoni, Elisa Sennaoui et Claudia Guerini, un film italien qui sort. Ou qui est sorti cette année, quoi, ou qui va sortir juste après ça. Et après, une variété de cinéma sous-titré gros trash, donc des films un petit peu moins accessibles, on va dire, hein, surtout aux plus jeunes d'entre vous, avec Dead Sushi, un film japonais qui date de l'année dernière, de Takamesa Suga. On a Father's Day de Adam Brooks, avec lui-même Lloyd Kaufman, qui est...
Ah, ça me dit quelque chose, mais je vois pas.
Qui est le fondateur de Trauma Film.
Oh merde! Et
il
oui
est toujours vivant.
Ah non, mais en plus, c'est un vieux papy absolument oui hallucinant. Ouais,
très gentil, très sympa en plus. Quoi.
Tu l'as pas vu l'émission, je te la montrerai ouais tout à l'heure. Elle est vraiment à pleurer de rire.
Et ensuite, eh bien, pas mal de petites choses avec des invités. A priori, d'après ce que je peux lire, mais enfin, bon, il y a Yann Bucquois, donc qu'on ne présente plus, hein, qui est un des réalisateurs, agitateurs belges, très très connu quand même. Ah si si, bah ouais, quand même quoi. C'est lui qui a fait La vie sexuelle des Belges, c'est lui qui a fait Camping Cosmos et Fermeture de l'usine Renault à Vilvoorde. Sous-titré La vie sexuelle des Belges, part 3. Voilà, Yann Bucquois, Nelly Kaplan, là aussi, bah, hommage quand même. Ce sera l'occasion pour vous, alors chaque fois qu'il passe à la télé, je vous en parle de ce film, parce qu'il est excellent, ce film de Nelly Kaplan, avec la regrettée Bernadette Lafont, c'est La fiancée du pirate qui sera également diffusée. La fiancée du pirate avec Louis Malle en acteur, avec Michel Constantin, Julien Guillaumard, Georges Géret. Ben, et le film
d'accord,
est vraiment
okay,
est terrible, terrible, terrible. Terrible, pas dans le sens mauvais, hein. Excellent, quoi, vraiment excellent. Giorgi Palfi, je sais pas qui c'est, mais c'est un étranger, donc on s'en fout. Et ensuite, eh bien, Cinéma Mama, plein de petites choses comme ça, quoi. Bref, bah, vous allez vous en foutre plein les mirettes et peut-être plein l'estomac aussi, certainement. Faut pas oublier toute la partie concert. Bon, a priori, on est plus concerné, hein, avec, bon, bah là, il y a pas mal de bons groupe groslandais, je pense, hein, Didier Super, qui a tout à fait sa place dedans.
Ouais.
Les Yen, The Yen, hein, le groupe bordelais, okay, composé de deux ex-musiciens de Noir Désir, et d'anciens de. Cite-moi des noms de groupes de Bordeaux des années 80.
Stalag.
Non, vas-y, continue.
Il y avait ST toujours au début.
Oui. Non, ça c'était tout Standard. Au début des années 80. Un peu plus loin dans le temps et tout. Quoi.
J'adore le placage de curseur.
Enfin bref, c'est des vieux de la vieille, mais leur disque qui est sorti l'an dernier est vraiment très très bien. Polémix, la voix off et Karina, ça aussi c'est pas mal.
C'est, et pas c'est que l'on voit souvent sur Libération d'ailleurs, ouais, puisqu'ils font partie du labo.
Et dont vous pouvez vous procurer toujours en téléchargement gratuit, vous pouvez les choper gratuitement sur leur site, les dernières, on va dire.
Les derniers mix.
Ouais, les derniers mix. En fait, ils prennent les voix de tous nos hommes politiques et ils leur font dire absolument n'importe quoi. Techniquement, c'est vachement bien foutu, c'est nickel. Et vraiment, c'est très très bien. Non, c'est vraiment, c'est très très bien.
Et déjà qu'ils disent déjà n'importe quoi.
Le retour de François Corbier.
Et qui fait de la chanson à texte depuis.
Qui est très très bien, qu'on avait accueilli.
Qui faisait à une époque de la chanson à texte avant d'être mis dans le Club Dorothée. Et il s'y est remis dessus.
Voilà.
C'est plutôt engagé, c'est plutôt remis dedans, poésie. C'est un peu entre Pierre Perret et Brassens, hein, des fois. C'est.
Ouais, avec des fois un ton un peu plus surréaliste, on va dire.
Ah oui, oui, largement. Le mec est resté très poétique,
ouais,
et hyper intéressant.
Ouais, hyper intéressant. On l'a reçu ici la dernière fois qu'il était venu à Toulouse. Il y a 3-4 ans, tout à fait adorable. Les Cagettes, qu'on connaît également, ça, ce sera mercredi prochain, et ça sera au Cri de la Mouette avec Touka et les Sex Cuistots. Il y a également Erotic Market, moi j'aime pas du tout, mais bon, il y en a qui vont apprécier certainement. Coralie Trintritin, donc, non, vous la verrez pas à poil. Elle aussi, c'est une ex-collègue d'Ovidie, mais elle est plutôt dans le DJ set maintenant, quoi. D'accord. Ensuite, jeudi, est-ce qu'on a encore OVO? Alors ça, c'est défini comme étant de la musique OVNI. On a Zatokrev qui fait du métal. Ça, c'est certainement pour que Jerkov il rentre dans leur compte et qu'il gagne un petit peu de pépette. Ben oui, il faut bien faire de l'autopromé quand même. Hein. Il y a Toxic Avenger, ça c'est le vendredi. C'est dans le cadre de l'électro-alternative. C'est au bikini, mais c'est l'électro-alternative qui invite Groland. Donc avec donc le Toxic Avenger, Sexy Sushi, OS et le Dealer ainsi que LR Society. Et ensuite le samedi prochain, comme d'habitude, ça commence très tard le samedi, c'est à 18h01 précise. C'est le bain de foule présidentiel, comme chaque année, hein, avec
son groupe d'ailleurs, il me semble.
Voilà.
Puisque ça se finit, c'est les vendeurs de porc ou les mangeurs de porc, je ne sais plus. Le nom du groupe officiel dont fait partie Saint-Langro.
Non, ils ne sont pas présents là, parce que samedi, donc, il y aura un concert en plein air à 19h02, place Saint-Sernin, comme l'année dernière, avec les Ramoneurs de Menhir. Ça, c'est vraiment bien. Hein, ils disent que c'est du punk celtique, mais pas que. C'est un peu plus intelligent comme musique que le punk de base. Non, c'est vrai, il y a les touffes chrétiennes aussi, quoi, qui est une fanfare
en deux mots,
festive.
Oui.
Et les Taïkonauts, les rockers, surfeurs, qui, eux, sont pas de Toulouse, mais sont soit de Montpellier, soit de Bordeaux. Enfin, ils sont du sud aussi, quoi. Enfin, je crois du moins, quoi. Et après, il y a l'after officiel avec Aft Punk, Rufus Bellefleur. Ça, c'est pas mal ce qu'il fait, ce mec. Hein. C'est assez sympa, quoi. Et Coralie Trinity qui s'est dit, je vais rester toute la semaine comme ça, je peux faire des DJ sets tous les soirs. Voilà. Voilà pour le Fifi Gros, c'est la semaine prochaine, donc, à partir donc de lundi, hein. Lundi, la cérémonie d'ouverture, c'est à l'Utopia de Toulouse à 21h, avec bien entendu notre cher président, Christophe Salingro. Et la diffusion du film Henri de Yolande Moreau, film qu'elle a réalisé, dans lequel elle joue également, hein, en compagnie de Jacques Iberoyer et de Noël Godin. Voilà.
C'est bref, toute la bande à Canal.
Vous êtes trop érudits, les mecs. Vous avez l'air de connaître la planète entière. Je suis étonné.
Côté grand écran, côté multiplex, sachez que, alors là c'est un petit peu la surprise, je l'ai su par hasard d'un exploitant, il n'y aura que 3 films en 3D qui sortiront d'ici la fin de l'année.
Mais c'est marrant, ça marche
plus
là.
C'est terminé. Il y a eu une mode dans les années 50 des films en 3D et puis ça a chuté au bout de 5 ans. Il y a eu une mode des films en 3D à la fin des années 70, début années 80 et puis ça a chuté au bout de 5 ans. Il y a eu une mode des films en 3D au moment qui a été lancée par Avatar. Et ensuite, eh ben, il fallait que toutes les productions soient en 3D, même s'ils n'étaient pas filmés en 3D. Donc on gonflait les trucs, etc. On exagérait. Le scénario, on s'en foutait complètement, on le mettait au plat. On avait toujours la même mise en scène dans les bandes-annonces. Et maintenant, eh ben, voilà, on arrive sur la fin. Donc on a eu une bulle sur ces productions et la bulle fait... Peut-être qu'on va se remettre d'abord à des budgets beaucoup moins gonflés, aussi à des scénarios beaucoup mieux écrits et moi en vrac.
Ça, j'y crois plus.
Hein. Qui sait, peut-être que l'œuvre d'Odieux Connard,
c'est plus à la mode.
Que l'on a eu en interview d'ailleurs il y a 3 semaines, a porté ses fruits. On ne sait pas, on verra ça. En attendant, qu'est-ce qu'il en reste ? Eh ben, sachez donc que dans le prochain Superman, qui s'appellera Superman versus Batman, Nightwing sera interprété par Justin Bieber.
Cool. Mais il y aura pas de scénario non plus, donc bon.
Et c'est basé sur le Dark Knight Falls de. Mince, à chaque fois ça me. Le The Dark Knight par.
Frank Miller.
Par Frank Miller, voilà. Donc sur cette partie-là du scénario.
Mais il n'y a pas de scénario. La dernière fois de Batman, il n'y avait pas de scénario en fait.
Ça m'inquiète un peu. En attendant, on verra ce que ça donne au final.
Ouais. Bon, je sais pas si je vais y aller. Hein. À la télé, peut-être.
Le Superman, j'étais pas fan.
Ouais, non. Ouais.
Là, non.
Ça devient désagréable. Là, ouais. On n'y va plus. Là. Bon, allez. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a du cul en 3D ? Voilà. Et là, quand il n'y aura plus de cul en 3D et qu'il n'y aura plus de sport en 3D, là, on saura qu'il n'y aura plus de 3D.
Moi, je pense que c'est tout simplement c'est le fait d'emmener sa copine, tu vois, au cinéma et vouloir l'embrasser dans la salle obscure avec les lunettes, ça ne marche pas. Je pense que c'est ça qui fait que ça s'éteint.
Non. Il y aura deux pompes à fric qui pourront éventuellement sauver le truc, c'est le cul et le sport. Voilà. Après
on
les
verra,
films.
On verra. En attendant, moi je pense que ce qui a vraiment signé la fin de la 3D, c'est le fait qu'il n'y ait plus de chaînes de télé en 3D. Les chaînes cinéma en 3D sont toutes fermées. Ah, et donc voilà. Forcément, ça n'a pas aidé à la,
oui,
à la commercialisation.
Oui, mais si Marc Dorcel 3D se casse la gueule aussi, hein, quand même. Hein, il faut, voilà. Donc il faut voir les actions de Marc Dorcel 3D. Ouais.
Position suivante, on va passer à la bande dessinée. Avec un manga dont on avait déjà parlé, le premier tome, Trouble is My Business, scénarisé par Natsuo Sekikawa, mais dessiné par Jiro Taniguchi. Taniguchi, que vous connaissez forcément par L'homme qui marche, par Seton,
Quartier Léontin, Le sommet des dieux.
Mais ça, toute K2. Cette production.
K2.
Toute cette production, c'est une production qui a plutôt marché à l'étranger plus qu'au Japon. Mais auparavant, ouais. Ça a été un auteur à succès au Japon. À la fin des années 70, début années 80, il a fait cette série, Trouble is My Business. Et quand on regarde après, les Nicky Larson, enfin plus exactement, le titre original, City Hunter et tout ça, on se dit, oui, effectivement, c'est directement inspiré de Trouble is My Business par le ton qu'il prend, par le trait qu'il y met, par l'humour assez noir, assez glauque qu'il y fout, et surtout par la manière dont il décrit finalement de la société de l'époque. Alors Trouble is My Business, lui, est directement inspiré des romans des années 30, 50, c'est-à-dire qu'on a vraiment les références à la Marlowe, c'est-à-dire celle d'un détective qui est un paumé, qui va prendre des affaires un peu trop grosses pour lui. Sauf qu'ironiquement, les affaires trop grosses, ce sont souvent déjà des histoires d'adultère. Déjà, à partir de là, le détective, il est paumé. Et même pour ça, il est très mauvais. Et c'est souvent sa fille qui est au collège qui va le chercher après une nuit en garde à vue au commissariat. Son ex-femme lui rappelle au téléphone combien il n'est déjà pas très futé avant de vouloir devenir détective privé. Sa banque lui rappelle qu'il aura bien du mal à payer soit la pension alimentaire, soit son loyer. Et parlons du loyer, il loue l'arrière-salle d'un cabinet dentaire. C'est-à-dire que quand les clients viennent le voir, ils doivent passer devant un dentiste avec la roulette. Déjà, ça passe très mal. Le détective Fukamachi est donc bien un loser total. Et évidemment, les emmerdes, c'est son affaire. On va même dire que c'est son quotidien. Et si d'aventure, il vaudrait mieux pour lui qu'il ait de quoi répliquer au plomb, il en est réduit à louer à la journée un flingue. Déjà, ça le fait plutôt mal.
Ouais, alors en plus, quand il loue le flingue, il doit payer pour le flingue, pour l'allocation du flingue et pour le nombre de balles qu'il va utiliser. Ouais, il paye chaque balle. à un tarif vraiment pas trop intéressant.
Non, pas du tout. Heureusement, Fukamachi, par le jeu de ses déboires, est arrivé à se faire ami, enfin, si on peut appeler ça des amis, d'un petit chef de gang Yakuza et d'un inspecteur de police. Bien pourri. Et évidemment, ceux-ci rêvent aussi d'être des seconds rôles dans des intrigues internationales, surtout que les petits truands débarquent d'autres états, qu'ils soient coréens ou hongkongais. Sauf que ni Fukamachi, ni ses compagnons bras cassés ne parlent un seul mot d'anglais. On va pas dire que ça soit vraiment bien parti. Pas très glorieux, pas du tout glamour. Le Japon à la fin des années 70, eh ben c'est pas vraiment le pays tel qu'il est idéalisé actuellement, loin de là. C'est un petit archipel qui fait partie du bloc occidental, isolé face à une URSS à l'époque de la guerre froide qui rêve de la vallée toute crue, et face à une Chine qui à ce moment-là est en très grande pauvreté et venait de perdre Mao Zedong. La Corée du Sud, toute proche, est encore la plus grande base militaire américaine, et la présence de l'ancien occupant est toujours ancrée dans les grandes bases, sans compter tous les Vietnamiens et tout ça, qui savent plus trop où aller.
Tous les immigrés, quoi, en fait.
Ouais, exactement. Le Japon lui-même est en pleine expansion économique, malgré la crise pétrolière. Les activités d'investissement économique à l'étranger, qui sont les fruits de la révolution électronique des années 60-70, vont bientôt rapporter. La jeunesse commence un petit peu à s'émanciper. Il y a déjà eu les grandes périodes de révolte de 68 à 74 par rapport à l'installation de l'aéroport Narita et tout ça. La jeunesse donc va essayer de s'exploser, mais il reste encore un esprit militaire vengeur depuis la défaite face aux alliés, le mode de pensée féodal qui s'est tourné vers les grandes entreprises ou la criminalité institutionnalisée. On revient à une certaine époque où la cigarette n'avait pas l'image tabou, les beuveries d'alcool fréquentes, les courses-poursuites rarement entachées d'embouteillages, et où l'esprit macho prédominait. On a bien évidemment le plaisir de découvrir encore plus le trait déjà fortement affirmé de Shiro Taniguchi avant qu'il sorte du mainstream pour la carrière que nous lui connaissons et pour laquelle il a eu plus de succès en Europe qu'au Japon. Du sport.
Ouais.
À toi, tu.
Alors moi, j'adore, hein, y a pas de problème, hein, de toute façon, quoi. Et là, dans le. Alors, il faut préciser quand même que, bon, même si les bouquins paraissent assez gros et ont un nombre assez conséquent de pages, ce sont quand même des histoires courtes qui font, on va dire, une trentaine de pages à chaque fois. Et des histoires qui sont complètes. Après, bon, ben, le fil conducteur, c'est bien entendu la vie privée de Fukamachi, justement, que tu as évoqué avant, ses rapports avec. Avec son ex-femme, sa fille et ses problèmes domestiques entre guillemets. Mais enfin bon, c'est vraiment, y a rien à dire. Hein, c'est top moumoute. Et dans le 2, moi, j'ai particulièrement apprécié le chapitre 11 qui s'appelle. Je vais le trouver vite fait. En proie à l'ivresse. Et on se dit bon, ok, ça y est, ça continue parce que bon, c'est le troisième, hein, dans ce tome.
Ouais, il a un seul problème avec l'alcool. Ouais, parce qu'il tente d'y oublier tout ce qui est.
Voilà.
Ce qui
c'est, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, quand il boit, c'est pas simplement. Il boit pas en société, quoi. Il boit, c'est pour zarsouiller, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Mais dans celui-là, justement, bah, il boit pas. Parce que bon, bah, c'est l'épisode qui est un petit peu psychédélique. Parce qu'en fait, au début de l'épisode, on lui fait ingérer un truc dans un verre. Il sait pas trop ce que c'est. Et il commence à avoir des alus graves. Et le problème, c'est que bon, bah, il a été pris comme, plus ou moins comme proie. Dans une espèce de snuff movie un peu dégueulasse où on va essayer de le dégommer par tous les moyens, y compris avec un pilote d'hélicoptère, un hélicoptère à la fin. Et là, bon, ok, ça part dans tous les sens et tout. Et là, c'est l'occasion, je profite de l'occasion en vous citant justement cet épisode pour vous dire qu'il n'y a pas que Taniguchi au dessin, mais il y a également Natsuo Sakikawa au scénario.
Qui est pas mauvais.
Vraiment, vraiment très très bon. Là, on va très très loin parce que bon, les histoires se suivent. D'accord, mais sont complètement différentes les unes des autres. Hein. Il n'y a pas de redite. Il y a bien sûr les personnages qu'on retrouve au fur et à mesure. Hein, le flic corrompu, le mec de la pas de la triade, mais
ouais, mais c'est un yakuza quoi.
Des yakuza, voilà. Bon, les personnages qui sont là, bon, bah, un petit peu fil rouge quoi. Mais sinon, allez-y, achetez sans problème, lisez-le, c'est vraiment une tuerie. Ou alors, allez à la bibliothèque et puis essayez de le trouver, hein, y a pas de problème. Hein, c'est également dispo de temps en temps en bibliothèque, car les bibliothèques municipales à Toulouse font quand même beaucoup d'efforts pour se maintenir au courant et pouvoir proposer des ouvrages dans tous les domaines qui sont assez récents.
En tout cas, c'est vraiment de ce côté-là. Si vous voulez découvrir Shiro Taniguchi, C'est un bon moyen de commencer. Trouble is my business, volume 2 et 3, c'est dans la collection Made in Shekana. Oh. Le cinéma vous est présenté en Torniolo-Rama par du sport, pour une fois. Et oui, il n'y a pas Thomas.
Avec donc Kick-Ass 2, et comme bon, on a pris quelques vacances au moment de la sortie de Kick-Ass 2, c'était le 21 août. Mmh. Il est encore à l'affiche, mais plus pour longtemps à mon avis. Quoique, il a déjà fait plus de 500 000 entrées.
Ah, il l'a bien cartonné, ouais.
C'est pas mal. Il a fait 50 millions de recettes d'exploitation en 2 semaines aux États-Unis, ce qui veut dire que ben le film c'est cool pour eux. S'ils veulent en faire un 3, ils peuvent. Sauf qu'il n'y a pas de Kick-Ass 3. Donc voilà.
Merci de rien dire.
Tout. C'est réalisé par Jeff Wadlock, oui, qui a donc pris la place de Matthew Vaughn, qui avait réalisé le premier de façon absolument magistrale, en reprenant vraiment l'histoire de Mark Millar et de John Romita, et en la transposant absolument magnifiquement sur l'écran. Là, bah, pour le deuxième, il s'est dit, bon non, j'ai autre chose à faire et tout, mais je connais un bon réalisateur qui est pas mal, c'est Jeff Wadlow, et c'est donc Jeff Wadlow qui réalise et qui est également scénariste, mais bien entendu d'après l'œuvre de Millar et de Romita. Alors, faut noter que dans les producteurs, il y a Matthew Vaughn, ça c'est normal, hein, mais il y a également un certain Brad Pitt qui produit le film. Ça m'a fait hop, je me dis tiens, c'est bizarre, mais enfin c'est comme ça. Alors pour les personnages, bon, c'est le personnage principal, c'est bien entendu Kick-Ass, c'est-à-dire Dave Lisewski, hein, interprété par Aaron Taylor Johnson, et sa némésis, on va dire son ennemi le plus intime, c'est Red Mist dans le Kick-Ass 1, mais qui dans le Kick-Ass 2 va se transformer en motherfucker. Yeah, vous allez comprendre pourquoi. Je vous dévoile pas le truc, si vous avez lu la bande dessinée, vous savez de quoi il s'agit. Mais si vous n'avez pas vu la bande dessinée et que vous allez voir le film, vous allez avoir une grosse surprise quant à la transformation de Red Mist en motherfucker. Faut dire que dans le premier, à la fin, le père de Red Mist, qui est le patron de la mafia, eh bien, se fait dégommer par Kick-Ass, assisté par Hit Girl.
Ouais.
Et donc, bah, Red Mist, lui, bah, il essaye toujours de fourbir sa vengeance contre Kick-Ass. Alors qu'au départ, ils sont connus, ils étaient potes, hein, puisque bon, bah, c'était les deux premiers à dire, ouais, on est des jeunes, on a envie de se défoncer, on va aller dans la rue et tout. Le principe de base de Kick-Ass, en fait, hein. On n'a aucun super pouvoir, mais ça fait rien. On s'habille n'importe comment, on fait des trucs, on va dans la rue, on essaye de faire respecter la loi. C'est ça le principe de base de Kick-Ass 2. Avec, bien entendu, toutes les péripéties qui peuvent en découdre.
En général, il y a beaucoup d'effets secondaires physiques, il y a beaucoup d'os pétés, de belles balades, de bleus.
Oui, c'est très violent, hein, de toute façon.
Ça, attention.
Et d'ailleurs, l'intro, la scène d'introduction de Kick-Ass 2, vous allez voir, c'est dès le départ, t'en prends plein la gueule, tu dis, ah bon, ok, le générique pas encore passé. La première scène, Hit Girl avec Dave Lieski, une scène qui m'a rappelé d'ailleurs une scène finale dans un film de Takashi Miike. D'accord. Mais enfin bon, j'extrapole peut-être un petit peu trop. Outre Christopher Mintz-Plasse et Aaron Taylor-Johnson, il y a bien entendu Chloé Moretz qui joue le rôle de Hit Girl. C'est quand même elle la meilleure, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo.
Hallucinante, rien que dans la bande-annonce.
Ouais, et bon, alors c'était quand même vachement difficile déjà dans le 1 de représenter, de faire jouer une actrice qui est l'air d'une gamine de 12 ans, ce qui est le cas dans la bande dessinée. Dans le premier, on s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Le premier est sorti il y a 3 ans, en 2010. Chloé Moretz a donc 3 ans de plus quand ils font le deuxième. Mais ça le fait encore, il n'y a pas de problème. Ça bouille, on va dire, c'est un petit peu affiné et tout. Mais ses expressions et son jeu, surtout, peuvent faire croire que c'est quand même une gamine de 12 ans, 13 ans. Bref, elle est bluffante.
Elle en a combien ?
Elle est bluffante. Alors, je sais pas, je vais même pas chercher. Hein. Bon, elle doit être pas encore à la majorité, quoi, je pense. Quoi. Enfin bon, très loin. Pas très loin. Mais c'est quand même elle qui est le personnage principal. Parce que c'est elle la seule dans les super-héros positifs qui sait vraiment se battre. Mais vraiment, elle sait se battre. Et pour titre, la première scène de baston, qui est l'entraînement de Dave Lieski par Chloé Moretz, par Hit Girl, dans le style, vas-y, là, t'as 4 mecs qui sont en train d'essayer de dégommer un pauvre clodo, tu me les chopes. Et bon, bien entendu, il est ce qu'il est, même avec un certain entraînement. Ce qui veut dire que bon, il va en dégommer un, deux, voire trois, mais il y a toujours le quatrième qui lui rentre sur le dos. Et puis bon, il finit par commencer à se faire démonter la gueule. Mais alors bon, avec du sang, vraiment, avant que Hit Girl arrive pour rétablir la situation. Et elle rétablit la situation avec deux Nunchaku. Dans une scène qui est vraiment la meilleure scène de baston pour moi, hein. C'est la première scène, mais on voit que bon, elle a pris beaucoup de cours avec les Nunchaku, et qu'il y a certains films qui l'ont certainement inspiré. Pas de problème, j'en dirai pas plus, mais vraiment, c'est très très bien fait. Faut aussi noter que dans ce film, les scènes de baston, quand il y en a, eh ben, sont très bien filmées, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que y a des coups qui doivent faire assez mal, qu'ils ont dû bien chorégraphier les scènes pour qu'il n'y ait pas trop de casse, parce que vraiment, c'est très très violent. Mais c'est quand même filmé de manière très réaliste. Hein. C'est ça qui est assez impressionnant. Après, au niveau du personnage dont on a beaucoup parlé, hein, de l'acteur dont on a beaucoup parlé, Jim Carrey, hein, qui, après la sortie du film, après avoir tourné le film, et suite à une tuerie, une énième tuerie dans un lycée, je sais pas où, aux États-Unis, c'est un petit peu désolidarisé du film parce que bon bah il n'était pas pour la violence et que le film bon est quand même un film assez violent.
Oui, avec une interview qui a beaucoup fait jaser effectivement, ouais. Puisqu'il s'était vraiment, il avait dit ouais non mais c'est pas bien la violence et tout ça.
Voilà. Alors que dans Kick-Ass 2, ok, hein, il joue le rôle du colonel Stars and Stripes. Également un super-héros du quotidien.
C'est si vous n'avez pas compris l'allusion, Stars and Stripes, c'est le surnom qu'on donne au drapeau américain.
Au drapeau américain, voilà. Ouais. Et bon, il est excellent, il n'y a pas de problème. Bon, là, il ne fait pas rigoler du tout. Hein. Ce n'est pas le Jim Carrey qu'on a l'habitude de voir, hein, qui fait 50 000 grimaces, l'homme au visage élastique tel qu'il était surnommé au début de sa carrière. Non, là, il est assez sérieux quand même. Il est un petit peu à la limite de l'extrême droite, on va dire, dans ses propos. Mais bon, on comprend un petit peu au fur et à mesure quel est son mode de pensée, quoi. Il y a également John Leguizamo qui joue le rôle de Javier, qui est un petit peu l'aide de Red Mist, hein, c'est-à-dire c'est un des seuls mecs qui reste qui n'a pas été dégommé dans Kick-Ass 1 par Kick-Ass et par Hit Girl. Et là, bah, John Leguizamo, bon, on le voit pas longtemps. Vous comprenez certainement pourquoi, mais par contre, bon, c'est lui la caution un peu humoristique, on va dire, le pendant humoristique de ses rapports avec Red Mist, quoi. Red Mist qui est obnubilé par sa vengeance, et l'autre qui lui dit bon, attends, là, arrête quand même, mais c'est quand même lui qui fournit les flingues et tout le truc et tout, parce que c'est son homme de main. C'est lui qui est payé, hein, par Red Mist, quoi. Donald Faison, qu'on avait vu, c'est le Black dans Scrubs. Je sais pas si tu vois cette série, qui joue le rôle du Dr Gravity. Alors là, c'est pas mal parce que bon, bah, c'est vraiment le mec Dr Gravity. Il est là, un costume tout à fait ridicule, une batte de baseball avec des espèces d'ampoules incrustées, quoi, dans la batte de baseball. Et puis la première fois que Lisevski le voit, Kick-Ass, donc il dit ah ouais, mais vraiment avec ces battes, tu peux vaincre la gravité et tout, quoi. Mais oui, regarde, j'appuie sur ce bouton et puis hop, t'as les trucs qui commencent à clignoter, quoi, comme un arbre de Noël, quoi. Et puis il l'éteint, il dit bah non, je déconne, attends, on est dans la vraie vie. Bon, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de Kick-Ass, c'est ça, hein, de toute façon, du début jusqu'à la fin, hein. Maurice Chestnut remplace Omar Hardwick dans le rôle de Marcus Williams, le mec qui adopte Hit Girl quand Big Daddy se fait dégommer dans le premier. On a également Yancy Butler qui fait une courte apparition, on va dire, je vous dirai pas pourquoi, mais qui joue le rôle de la mère de Red Mist, donc l'ex-femme de Mark Strong dans le premier. Et on a également une petite apparition des deux auteurs de la BD, Mark Millar et John Romita. Mais pour les trouver, les gars, il faut vraiment chercher, et puis déjà faut connaître leur tronche, hein. Que dire de plus, le film est excellent. Il y a peut-être un bémol à ajouter à ce film par rapport au premier. Le premier était vraiment l'adaptation directe et fidèle du Kick-Ass 1. Et dans le Kick-Ass 2, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la bande dessinée du comics Kick-Ass 2, eh bien, est sorti un petit peu après Hit Girl, donc, qui est bon, bah, un espèce de truc à côté. Et Hit Girl, qui est sorti après Kick-Ass 2, si vous me suivez toujours, eh bien, est situé dans le temps entre Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2. Et donc, l'astuce du scénariste, ça a quand même été d'ajouter et d'introduire quelques éléments de Hit Girl dans le Kick-Ass 2, de telle manière à ce que ça colle un petit peu et qu'on comprenne un petit peu mieux quel a été le passage et quel a été
le mode de pensée de Hit Girl et de Kick-Ass entre les deux, avant le démarrage du deuxième, donc du film Kick-Ass 2. Le bémol, c'est peut-être l'espèce de relation non pas amoureuse qui existe entre Kick-Ass et Hit Girl, parce que bon, il y a une grosse différence d'âge. À un moment, il se fait vanner en cours parce que t'es un pédophile, tu sors avec une nana de 11e alors que toi t'es en terminale, elle est en 6e et tout, en 5e, t'es un pédophile. Enfin bon, il se fait vanner pour ça, quoi. Et c'est surtout par rapport au fait que Hit Girl, au départ du film, elle ne fait rien, elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, vu que à la fin de Kick-Ass 1, après tout ce qui s'est passé, elle a promis à Marcus, son père adoptif, de ne plus endosser l'uniforme de Hit Girl, de ne plus se battre, mais d'aller à l'école et de rentrer un petit peu dans le moule. Sauf qu'elle peut pas. Et il y a les scènes qui sont vraiment très très cocasses, mais qui sont également décrites dans le comics, où on voit que son intégration dans le lycée, ce qui est un poncif dans un lycée aux États-Unis, des fois ça se passe très mal. C'est-à-dire que t'es pas accepté, t'es carrément rejeté pour une raison ou pour une autre et tout. Et bien entendu, alors il y a les quelques scènes qui sont vraiment très très marrantes, dont une où Jeff Wadlow s'est fait plaisir et a commencé à délirer avec des images qui partent à la limite de l'onirisme, des trucs pas possibles et tout, à propos des nanas qui sont vraiment des chieuses de première et le contact avec Hit Girl. C'est vraiment très très bien foutu, ça vaut le coup. Par contre, là où le bas blesse, pour moi personnellement, c'est la recherche constante de Kick-Ass pour que Hit Girl revienne. Et donc ça devient pratiquement un leitmotiv tout au fur et à mesure du film. Parce qu'il y a une grosse partie où Hit Girl, elle se bat, mais elle se bat au lycée contre les nanas qui voudraient qu'elle soit une pétasse comme elle, super maquillée, qui ne jure que par Justin Bieber et puis autre Selena Gomez, quoi. Enfin bon, bref, ça le fait pas.
Il est vachement au courant du.
Oui, mais bon, quand même, quoi. Et donc, c'est ce petit truc qui, moi, m'a gêné dans le film, parce que, c'est répété tout le long et jusqu'à la fin, quoi. Alors, moi, c'est un petit peu, pourquoi tu viens pas avec moi? Oui, mais je peux pas. Et ça, à la longue, c'est peut-être un petit peu chiant. C'est-à-dire que ça coupe un petit peu l'effet final, on va dire, pratiquement, quoi, quand Hit Girl enfin revient. Ce que beaucoup de gens attendent d'ailleurs dans le film, quoi. C'est qu'elle vienne pour que ça dégomme à fond les manettes, mais que ça dégomme sérieusement, quoi, et pas un petit peu à moitié comme ça, quoi. Bref, c'est vraiment excellent, il n'y a pas de problème. Et je dirais qu'il est un tout petit peu en deçà du premier, mais c'est vrai qu'on a pu l'effet de surprise qui joue. C'est ça aussi, ça compte un petit peu. Mais ça reste quand même vraiment dans la lignée de ce que Mark Millar et John Romita ont voulu faire, et de ce côté-là, je tire quand même vachement mon chapeau. Alors, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de jurons, de gros mots, de trucs comme ça. C'est normal, le film est interdit au moins de 12 ans quand même. Il y a beaucoup de sang, ça dégomme, ça casse, ça tue. Mais il y a une scène qui est très hilarante, quoi. Je vais pas vous dévoiler cette scène-là, dans laquelle Red Mist, s'appelle maintenant Motherfucker, et qui a embauché une équipe de super vilains. Alors c'est surtout la catcheuse soviétique qui est vraiment très très impressionnante, quoi. T'imagines une Dolph Lundgren au féminin, vraiment la taille, la carrure, tu vois que la nana, quoi,
et le regard vide
et tout, le regard et tout, ça va, quoi. Et à un moment, quand ils vont dégommer quelqu'un, un des super héros, on va dire, de la Ligue des justiciers, qui s'appelle Justice Forever, quoi, dans la version originale. Il faut dire que le type a un chien, donc là vous allez un petit peu repérer si vous avez vu le film. Et le type il dit on le tue, tue-le maintenant, quoi, ce mec. Et le chien on le tue aussi. On tue pas le chien quand même, merde, on est civilisé, quoi. Enfin moi, tout de suite le truc pour bien faire, alors que la scène est vraiment assez dramatique. Vous comprendrez pourquoi, car elle concerne Jim Carrey. Voilà, en ce qui concerne ce film Kick-Ass, dépêchez-vous d'aller le voir, parce que peut-être il va pas rester trop trop longtemps. Enfin, après, il y aura une sortie DVD qui sera assez rapide. La bande originale du film est excellente, il y a quelques morceaux, il y a le Go Team, j'ai repéré encore d'autres trucs, et il y a Annie El Khatib qui sera en concert prochainement au Bikini en novembre, me semble-t-il, et dont on écoute tout de suite le morceau.
Sauf que je t'ai demandé si je le mettais en interruption, tu m'as dit non, donc du coup je l'ai passé en fond.
Ben ça fait rien, on n'a rien entendu.
Bah oui, forcément. Donc hop.
Alors voilà, c'est le numéro 5. Le morceau s'appelle Pain No Mind. Non, il s'appelle Nobody Move. Et c'est extrait du deuxième album de Annie El Khatib. Donc
Day 26 of Euro Siege 85. This Euro Siege update is brought to you by Gloria Peterbilt. Now, live from our vantage point on the poop deck of the MV Communicator, here's Charlie Wolf.
Everyone keeps on doing that, and we got to admit, no, we're not actually in the poop deck, but it's kind of tough. Tommy did the same thing, because it's all written out. Actually, reporting from the studio complex here aboard the MV Communicator, as we're having trouble with our remote microphone. Good afternoon, I guess, would be everybody. This is Charlie Wolf reporting
live. Ce que
l'on
est en train d'écouter, donc, c'est une archive historique d'une radio qui s'appelait Radio Caroline, qui émettait, en fait, de Mer du Nord, et qui, en fait, c'était juste après la période de tolérance et au moment où le gouvernement anglais était parti littéralement en guerre face aux radios commerciales qui émettaient à partir de bateaux. Et du sport, justement, eh ben, tu as quelque chose de ce genre.
Tout à fait, ça s'appelle l'histoire des radios pirates, avec un très joli emblème de pirate, hein, c'est-à-dire... Skull and Bones, comme on dit en anglais, et c'est écrit par Daniel Le Sueur, et c'était édité, ça a été édité chez Camion Blanc. Camion Blanc, qui fait beaucoup de livres musicaux, on va dire. Hein. Vous avez chez Camion Blanc des biographies de pratiquement tous les groupes très très connus, Kraftwerk, Wazza, Led Zepp, Sister of Mercy, Depeche Mode, Joy Division, Nirvana, Sex Pistols, des fois il y en a deux ou trois, hein, des bouquins, Hendrix, Siouxsie, Sordide Sentimental, ça te parle à toi, je suppose, quoi, hein, hein, tu... Non, mais vraiment, il y a beaucoup de trucs, hein, c'est ça, Bauhaus, Rage Against the Machine pour les Iggy Pop, The Mission, Joy Division, il y en a au moins quatre, je crois, un bouquin sur William Axl Rose, les Specials, Mitchell, j'en passe, et des meilleurs. Il y a également une autre, c'est la même maison d'édition, mais qui fait également la série Camion Noir. Et là, ce sont des bouquins qui sont un petit peu plus polémiques, on va dire, parce que ils traitent de sujets qui sont un petit peu plus vénéneux, comme le sexe, la drogue et le rock'n'roll, et les histoires qui sont associées à cette je sais pas comment on dit, quoi, patrouille trilogie, quoi. Enfin, à cet hymne révéré par les rockers, mais pas que par les rockers. Là, c'est l'histoire des radios pirates. Alors, j'ai hésité quand j'ai vu le bouquin lors de sa sortie, parce que déjà, c'est un bouquin qui est sorti avec une grosse erreur d'édition. C'est que pirate sur la tranche, c'est avec deux R. Alors déjà, tu te dis, bon, où est le sérieux de la chose? Et après, bon, l'ayant acheté, ayant commencé à lire le bouquin, je me suis arrêté à la page 25, parce que je me suis dit, putain, si c'est chiant comme ça tout le long, je ne lirai jamais ce bouquin.
J'étais vraiment
très déprimé. Et je l'ai laissé tomber pendant deux mois, tranquille, avant de le reprendre, et de me dire, ah ouais, quand même, c'est pas mal du tout, et de le lire pratiquement d'une traite, quoi. Enfin, même pas deux jours, quoi. Alors, c'est l'histoire, eh bien, des radios pirates, c'est-à-dire des radios non officielles. Alors, on apprend plein de petites choses que je savais pas du tout, quoi. Alors, savez-vous quelle est la première radio française qui a commencé à émettre dans les années 20? Quel est le nom de la première radio française qui a commencé à émettre dans les années 20 et mais qui n'était pas officielle?
Ah, mais qui n'était pas officielle, parce qu'il y avait Radio La qui avait été dans les années 20, mais je crois que c'est Radio Toulouse.
Non, pas du tout, pas du tout. C'était une radio bretonne qui s'appelait Radio Morue.
D'accord, ok.
Qui donnait les cours du poisson, des trucs comme ça, et qui faisait des pubs, bon, donc pour les gens qui étaient des vendeurs de poissons, des trucs comme ça, quoi. Donc bon, c'est anecdotique, on va dire quand même. Il y a eu d'autres radios. Là, c'était une radio terrestre, hein, d'accord, hein, sur Terre, avec un studio implanté dans un endroit particulier. Ça, c'est juste pour dire qu'il y a eu beaucoup de pirates, beaucoup de radios qui ont existé depuis que la technologie existe, d'ailleurs, et qui, on avait rien à foutre des monopoles d'État. Parce que très tôt, les monopoles d'État ont été instaurés, que ce soit en France, en Angleterre ou dans tous les pays européens, aux États-Unis. Aux États-Unis, la législation était un petit peu différente, parce que il faut juste se tenir à une certaine puissance. Il faut le contrat est pas énorme, hein, en fait. Si t'as de l'argent aux États-Unis, tu montes ta radio, y a pas de problème, quoi. Et puis après, il faut t'en tenir à certains trucs. Bon, ok, pas parler de cul ou de trucs comme ça, ça c'est évident. Mais au niveau de la législation, tu peux faire pratiquement ce que tu veux, ce qui permet à des radios aux États-Unis, des radios sponsorisées par le Ku Klux Klan.
Ils ont une vision très particulière de la liberté d'expression. Il n'y a pas de limite.
Voilà, il n'y a pas de limite. Mais par contre, il y a un bémol, c'est pas vraiment un bémol, et c'est à propos de la liberté d'expression, c'est que sur ces radios, si tu donnes la parole à un auditeur, tu n'as pas le droit de lui couper la parole, quel que soit son discours. C'est-à-dire que tu es obligé de lui laisser la parole jusqu'à la fin de son discours. Faute de quoi, si c'est su, eh bien, la radio est suspendue, est arrêtée d'émettre, quoi. Hein, c'est pour dire que bon, bah, le côté liberté d'expression et tout ça, enfin bon, c'est le respect de la Constitution américaine, là, il n'y a pas de problème, ils font très très fort.
Il y a aussi une chose, alors là, c'est pas du domaine de la radio, hein, c'est plus du domaine de la télévision, mais quand sont arrivés les premiers réseaux câblés dans les années 60, ils ont une culture qui est assez particulière de liberté d'expression, qui est le public access, c'est-à-dire qu'il faut que n'importe qui puisse intervenir.
C'est
donc
ça.
C'était faisable en radio, c'était faisable dans la presse. Pour la télévision, c'est carrément, on met une caméra et n'importe qui peut passer devant. Il y a des chaînes qui sont réservées que pour ça aux États-Unis. Et c'est justement quelque chose qui n'existe absolument pas en Europe de ce côté-là.
Voilà. Donc venons-en maintenant aux radios pirates proprement dites, à savoir les radios qui se sont montées, eh bien, en dehors des territoires qu'ils voulaient couvrir. La première officiellement avoir été montée sur un bateau naviguant en dehors des eaux territoriales, c'est-à-dire 3000 marins ou 4000 marins selon les pays. C'était 3000 marins au départ en Angleterre. On verra que ça changera par la suite. C'est également 4000 marins, quoi. Ça dure à peu près 8 kilomètres, un peu moins de kilomètres, puisque le 1000 marins, c'est 1852 mètres. Et c'est au Danemark, en fait, qu'est née la première radio, le premier bateau pirate radio, et c'était Radio Mercure en 1959-58. Radio Mercure qui tout de suite a fait des émules. Un petit peu plus haut dans le nord, on s'est dit on va faire pareil, en Suède, en Norvège, avec ce sont des pays maritimes par essence de toute façon. Donc chez eux, c'est assez facile de se procurer un bateau, de le faire armer, de le faire équiper, et il n'y a pas de problème. Lié à cela, des financiers, des investisseurs qui se disent que il y en a marre des radios qui sont les radios monopoles d'État et qui ramassent un petit peu de pognon, alors que nous, on a un public qu'on pourrait capter qui ne dérangerait pas à l'autre public, car la musique qu'on passe est complètement différente. Il faut rappeler qu'on est en 59, en 58, fin des années 50, et qu'il y a une libération de la musique, révolution dans la musique, et il y a également le fait que toute une classe d'âge commence à avoir un pouvoir de consommation, commence à avoir de l'argent. Les jeunes adolescents peuvent commencer à acheter des fringues, à acheter leurs disques et tout ça. Donc,
et l'offre
c'est
radio,
une manne potentielle.
L'offre radio à l'époque, quand même, sur les radios nationales, à l'époque, il y a très peu de publicité. Et surtout, il y a, à l'époque, pour maintenir, pour ne pas détruire l'industrie musicale, l'industrie de vente du disque, ont été passées des lois qui fait que en journée, on ne doit pas passer de disques, on ne passe que des reprises, ce que l'on appelle maintenant du easy listening. Et bien tout simplement, c'était les orchestres qui reprenaient en fait les chansons populaires ou les tubes de l'époque, mais les orchestres maison dans une version complètement souple.
C'était surtout pour éviter de payer des droits quoi aux ayants droit quoi, justement quoi, de par la diffusion.
Non, ils avaient droit que 2 heures je crois en journée, et après le soir aussi un quota d'heures. Enfin c'était un truc qui est complètement aberrant maintenant.
Voilà. Alors donc continuons l'historique avec Radio Mercure qui est un peu la radio historique, on va dire. Il y a eu des essais qui ont été faits avant, c'est pas la toute première. Enfin, Radio Mercure est la première à s'être installée et avoir pu diffuser sur un rayon d'onde vraiment assez conséquent. Hein. C'est-à-dire, ils inondaient le Danemark, mais de l'autre côté, ils atteignaient également les côtes de l'Angleterre, hein, de toute façon, quoi. Et les programmes étaient diffusés en danois, en hollandais, parce qu'il y avait la Hollande également, et en anglais, selon les heures de la journée. Et c'est la radio qui a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire, à d'autres gens qui se sont dit, on va faire pareil.
C'est eux qui a lancé, quoi.
Les Hollandais ont pris le dessus, on va dire, avec RNI, Radio Nordsee International, RNI, donc...
Hier ist Radio Nordsee International mit seinem Testprogramm. Radio Nordsee International können Sie auf folgenden 3 Wellen empfangen. Auf der Mittelwelle 186 Meter gleich 1605 Kilohertz. Auf der Kurzwelle 49 Meter Europaband gleich 6,21 Megahertz. Und auf UKW gleich 102 Megahertz. Hier ist Radio Nordsee International mit seinem
Alors, ce que vous entendez là, c'est les
bandes de test,
les programmes test qu'ils faisaient avant de vraiment commencer à l'antenne. Et ça leur permettait de caler leur émetteur, parce qu'il faut savoir que ces radios émettaient généralement en ondes courtes, en ondes moyennes et des fois en ondes longues. La FM était bannie parce que la FM avait un rayon d'action qui était vraiment trop faible.
Alors quand on parle onde courte, onde moyenne, onde longue, il faut imaginer que l'émetteur est de plus en plus long au fur et à mesure. C'est-à-dire quand on dit qu'on émet sur 284 mètres par exemple, il faut un quart de la longueur d'onde en pylône pour pouvoir émettre. Donc ça vous donne déjà une idée de comment les bateaux sont montés.
Les bateaux sont montés avec
de diesel derrière, sans compter qu'on est en pleine mer, l'eau est conductrice, donc il faut plus de puissance contrairement à ce que l'on croit. Il faut plus de puissance que sur la terre ferme pour pouvoir être capté.
Oui, mais tout ça, on en parle de toute façon. Quoi. On parle également de tous les petits enfants, on va dire, de Caroline, de RNI, de toutes ces radios qui ont continué jusqu'à pratiquement nos jours à émettre sur des bateaux au large des côtes et tout. Il y a même eu des bateaux israéliens. Il y a eu des bateaux.
Oui, c'est le bateau de la paix, si je me trompe, qui était monté par des gens qui étaient contre la politique de colonisation.
Tout à fait. Oui. Le mec a même fait de la prison. Hein.
Et
le mec
plus d'une fois, d'ailleurs.
Juif israélien. En plus, il a fait de la prison en Israël parce qu'il était contre le gouvernement et contre la politique des gouvernants à l'époque. Pour continuer donc, alors il y avait donc ce problème de d'onde courte, d'onde moyenne et tout. Alors dès qu'il y a eu, on va dire, une douzaine de bateaux dans la mer du Nord, ça c'était vers la fin des années 60, on va dire, qui voulaient ça, chacun leur part du gâteau. Eh bien, ça a été la guerre des ondes, ça a été la guerre des fréquences, j'allais dire, des longueurs d'onde, quoi. En fait, là,
on se brouille les uns les autres, tout ça.
On essaye de pas trop se faire bouiller par gouvernements qui sont contre nous, mais ils peuvent rien faire parce qu'on est en dehors des eaux territoriales. Alors, je disais avant que, bon, bah, au départ, la limite des eaux territoriales en Angleterre, c'était 4 miles. Et à partir d'un certain moment, ils se sont dit, bon, ok, ils sont trop près des côtes, de toute façon, parce qu'ils arrivent à arroser pratiquement toute l'Angleterre, même l'Irlande, quoi. On dit, bon, bah, on va reculer.
On va agrandir notre territoire national.
On fait passer de 4 à 12 000 nautiques. Comme ça, bah, les bateaux, effectivement, même s'ils sont à 12 000 nautiques, ça émet un petit peu moins loin. Ou alors, il faut avoir vraiment un truc hyper puissant. Alors, ils étaient quand même un petit peu limités au niveau du matériel. Alors là, c'est assez rigolo parce que
Quoique, ils ont été les premiers à avoir utilisé un dispositif de son qu'on utilise beaucoup ici en radio qui s'appelle le compresseur, ce qui permet justement d'avoir un son qui semble un peu plus puissant alors qu'en fait on est sur la même puissance que les autres, qui fait qu'on a l'impression que c'est plus fort. C'est à l'époque aucune radio terrestre n'avait ça et c'est je crois que c'est le mec qui était derrière Caroline qui avait ramené ça des États-Unis.
D'ailleurs ils avaient d'ailleurs commandé au début des années 70 le plus puissant émetteur du monde qui était fabriqué justement aux États-Unis par RCA et qui arrosait mais alors de façon absolument magistrale. Et ça a été pas la seule raison, parce qu'il y a une raison politique aussi qui est intervenue à un certain moment et qui a fait que les politiques britanniques ont pris des décisions drastiques concernant Caroline et concernant les autres bateaux anglais qui arrosaient. Pourquoi ? Parce que à une certaine époque, politiquement parlant, en 68 ou en 69, l'âge légal du droit de vote est abaissé de 21 à 18 ans en Angleterre. Or, à la même époque, les jeunes anglais, eh bien, eux, ils ont un pouvoir d'achat, ils sont déjà dans la contre-culture, ils écoutent une musique qui ne correspond plus à ce que la BBC, la vieille Bib, leur promettait, bien que la Bib ait décidé, eh bien, de faire et de créer également sa radio jeune Radio One.
En 64.
Mais qui était vraiment de l'avis de tous les auditeurs, eh bien, une radio assez pourrie, hein, qui passait vraiment des trucs pas terribles, qui n'avait pas des contrats avec certaines maisons de disques, donc qui ne passait que les disques de 4 grosses majors et tous les autres, tous les indépendants, eh bien, ils pouvaient aller se faire voir. Donc, la fronde, elle était là aussi. Et donc, il y a une certaine radio, il y avait Caroline, mais pas tellement, parce que Caroline était déjà dans le collimateur à fond les manettes, s'était déjà fait arrêter d'émettre, s'était déjà fait brouiller par la Royal Navy, quoi, qui utilisait un brouilleur qu'ils n'avaient pas utilisé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le plus puissant brouilleur d'ondes du monde, quoi. Ils n'avaient pas utilisé depuis la Deuxième Guerre mondiale, et puis là, ils le ressortent pour brouiller une radio. Mais par contre, une autre radio, eh bien, a carrément fait campagne contre Harold Wilson, qui était le premier ministre à l'époque, et pour Edward Heath, qui était son candidat, Harold Wilson étant un travailliste, c'est-à-dire la gauche, alors que Edward Heath était le mec des Tories, c'est-à-dire de la droite. D'accord. Et une radio de jeunes, destinée aux jeunes, qui passe de la musique de jeunes et qui fait campagne pour un type qui est, on va dire, de la droite, c'est-à-dire comme la droite actuelle, comme Maggie Thatcher, comme David Cameron actuellement, eh ben on se dit, il y a un problème, quoi. Ben non, le problème, c'était que Edward Heath, dans ses promesses électorales, avait dit, ah ben non, ben moi j'assouplirai le régime des radios libres et des bateaux radio, il n'y a pas de problème, on va assouplir la loi de telle manière à ce qu'ils puissent émettre. Et là, bon, tous les jeunes, ont pratiquement voté en majorité pour Edward Heath, ce qui a provoqué la chute d'Harold Wilson. Et bon, ça a été un événement qui a été vraiment durement ressenti à l'époque, politiquement parlant, en Angleterre, hein, parce que on s'attendait pas à ce que, bien, un petit bateau comme ça, hein, qui diffuse des émissions de la musique, on va dire, légère, eh bien, arrive à faire inverser un vote politique, majeur.
Alors, c'est d'ailleurs une situation qui a été rappelée à Mitterrand au lendemain de son élection et qui fait que finalement, alors qu'il était contre les radios, les radios libres au départ, et puis il a dit bon allez, je vais me faire en province électorale et je promets, et puis point barre. Et finalement, il a préféré maintenir sa promesse parce qu'on lui a rappelé, méfie-toi.
Oui, oui, mais enfin, c'est cité dedans. Hein. Mitterrand, à un certain moment, eh bien, avait été arrêté, c'était en 78, en 79, alors qu'il était dans un studio d'une radio pirate terrestre. C'était Radio Verte, me semble-t-il, à l'époque. Quoi.
Oui, oui, c'est vrai.
La radio de Lefébure, il y avait Edern Allier, le troisième, je ne m'en souviens pas. Enfin, bon,
c'était un écologiste, j'ai oublié son nom.
Brice Lalonde.
Lalonde.
Brice Lalonde, voilà. Quoi. Donc, il s'était fait arrêter. Hein. Je me rappelle, ça avait été diffusé au journal télé. François Mitterrand, le futur candidat à la présidentielle face à Giscard, qui se fait arrêter comme un malpropre par les flics et ramener au poste.
Il y avait des radios syndicales, je crois. Il y avait une radio.
Oui, la radio première grande radio, c'était Radio Cœur d'Acier en Lorraine, qui avait été montée par la CGT suite à la fermeture, déjà à l'époque les premières fermetures de fourneaux.
Tout à fait.
Alors, puisqu'on a Sylvain qui est là, et qui fait partie d'un des grands historiques de la radio, c'est-à-dire c'est toi qui as fait partie de l'équipe fondatrice de Radio Éphémère en 81, originellement.
Presque, oui.
C'est pas trop le dire. Est-ce que tu as écouté justement ces radios en grandes ondes
Ben non, nous à l'époque, on n'avait même pas Europe 1 qui arrivait jusqu'ici finalement en grandes ondes.
Ouais, il faut dire que
Tout. On était très mal desservis et Radio Caroline n'arrivait pas jusqu'à Toulouse.
Non, n'arrivait pas jusqu'à Toulouse.
Donc on était frustrés complètement. Donc c'est vrai que l'arrivée des radios libres, pour nous, c'était super parce qu'on pouvait enfin nous-mêmes faire des émissions avec le contenu qu'on voulait, quoi. Ce qui était une grosse frustration précédemment de pas pouvoir accéder à des trucs qui sortaient au moment où ils sortaient. On était limité à quelques fréquences tout à fait pitoyables. Enfin, pour un jeune, il y avait absolument pas de musique.
Il y avait Radio Aki Andorra qui était monté par un ancien d'une radio privée des années 30-40 qui a été exilé et après full stop. Il y avait les quatre ce qu'on appelle les quatre périphériques.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que
même pas. Elles étaient que trois à l'époque. Il n'y avait pas encore Sud.
De Gaulle avait bien fait attention que bon, les radios, ça pouvait vachement influencer l'opinion. Donc, il avait verrouillé tout le truc et les radios. D'ailleurs, il y avait une radio à Toulouse. On le disait pas tout à l'heure, mais qui émettait donc depuis avant-guerre jusqu'à la guerre elle-même et qui faisait de la publicité d'ailleurs en fait, il jouait sur la législation, c'est-à-dire que dans plein de pays européens du centre, je sais plus où, mais qui étaient à portée donc de Radio Toulouse, dans certains pays on n'avait pas le droit de faire de la pub et à Toulouse finalement on faisait de la pub et on gagnait de l'argent en utilisant justement la législation qui l'autorisait. C'était assez rigolo. Bon, et donc toutes ces radios avaient disparu. Même s'il y avait des gens qui à Toulouse se souvenaient d'avoir eu une radio locale, ça avait complètement disparu et il n'y avait plus d'expression locale ni de possibilité d'entendre autre chose que les radios officielles, effectivement, en 80.
Sachant que donc il y avait quatre radios périphériques, Radio Luxembourg qui est devenue RTL, Europe 1 et RMC qui étaient que des radio qui avait été montée par les volontés politiques, hein, en plus, et Sud Radio aussi avait été montée nommément par le général de Gaulle pour contrebalancer un entrepreneur qui était en
Mais c'était aussi des guerres d'ondes, hein, qui s'est décrit un petit peu dans le bouquin, quoi, quoique succinctement, mais où justement, quoi, on savait très bien que, par exemple, RTL Europe 1 qui était basé au Luxembourg, quoi, et parce qu'elle n'avait pas d'existence, elle ne pouvait pas avoir d'existence légale en France, donc, mais elle pouvait très bien arroser du Luxembourg, mais ne descendait pas, si tu l'as dit avant, ne descendait pas jusque dans le sud, quoi. Et donc, eh bien là, c'est RMC qui se taillait la part du lion. Mais c'était une volonté politique qui était choisie parce que, ben, les gens qui étaient à la tête de ces différents réseaux à l'époque, qui étaient plus ou moins nommés, on va dire, n'étaient pas tous de la même obédience politique. Et grosse guerre entre ces radios.
Le plus drôle, c'est que donc ces radios appartenaient à la Sofirad, qui était une officine de l'État français.
Voilà. Alors passons vite fait justement quoi sur la fin, on va dire, de l'âge d'or des bateaux pirates. Alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des liens.
Oui, parce qu'ils démarchaient. Ils démarchaient en plus des annonceurs. Alors au bout d'un moment, effectivement, les gouvernements ont commencé à poursuivre les annonceurs. On a essayé de bloquer les ravitailleurs. Donc des fois, ils allaient. Il y avait des navettes qui partaient d'Espagne, hein, d'après ce que j'ai compris, pour faire le plein d'essence et remonter.
Parce qu'ils pouvaient pas. Il y avait certains ports dans lesquels, certains pays dans lesquels ils pouvaient pas accoster. Sinon, ils se faisaient arraisonner quand ils avaient des problèmes techniques et tout ça. Ils devaient des fois partir très très loin. Radio Caroline, qui a survécu très très longtemps, hein, qui a été racheté, qui s'est arrêté, qui a recommencé tout, a continué à émettre même dans les années 80, hein, mais dans les années 80, bon, il descendait carrément en Méditerranée pour pouvoir se faire retaper le bateau parce qu'il y avait des problèmes techniques et tout ça, parce qu'il ne pouvait pas aller, dans les ports anglais, ça c'est clair. Hein,
il ne pouvait pas aller en cale sèche, donc la coque rouillée.
Il ne pouvait pas aller non plus dans les autres pays maritimes du Nord parce que, il s'était mis d'accord au bout d'un moment pour dire ok, il y en a marre, parce qu'il faut dire que techniquement, le matériel était quand même très fiable, mais par contre, la fidélité au niveau de l'onde calée, c'est-à-dire sur les ondes courtes et ondes moyennes, ça variait, ça flottait un petit peu, des fois on brouillait une autre station, mais on savait pas du tout, quoi. Et c'est ça qui met une station officielle. Il faut aussi dire que l'une des raisons, mineures, pour lesquelles ces radios au départ se sont dit merde, pourquoi nous on pourrait pas aussi faire de la radio et émettre, c'est que les fréquences officielles qui avaient été délivrées et en Angleterre et en France, le problème pratiquement le même, étaient nettement inférieures au nombre de radios qui diffusaient, mais en toute légalité entre guillemets, parce que c'était installé, et puis il y avait eu une redistribution des fréquences radio à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On avait dit on a tant de radios, clac, tu prends ça.
Décidé par les États.
C'était décidé par l'État, mais le problème, c'est que souvent, techniquement, c'était pas possible et tout. Donc, au lieu de se caler sur la fréquence qui leur a été allouée et tout, ils disent là, c'est vachement mieux, on nous entend vachement mieux, on va se mettre là. Donc, ce qui faisait que sur 300 radios, il y avait la moitié qui fonctionnait de manière illégale, car elles n'émettaient pas sur la fréquence qui leur avait été allouée. Et là aussi, les gens disaient, eux aussi, ils sont en dehors de la loi, pourquoi nous, on pourrait pas le faire aussi, quoi. Il y a aussi le lien qui est assez rigolo, justement, on parlait de Radio Verte avant, quoi, qui est une des premières radios pirates en France. Il faut dire que le premier matos qui a été acheté, matériel, par justement Lefébure, l'un des trois fondateurs de Radio Verte, lui, il s'est intéressé à la radio très très jeune. Il avait pu écouter Radio Caroline et des trucs comme ça dès le début des années 70. Et Radio Verte, la première, a fonctionné avec un émetteur qu'il avait racheté en pièces détachées, parce que bien sûr, ce genre de matériel ne pouvait pas franchir les frontières. Et Radio Verte a commencé à émettre avec du matériel qui avait été sur un bateau 10 ans auparavant, quoi. Et pour souligner un petit peu le lien qu'il y avait entre ces différentes radios. Est évoqué, bien entendu, tout ce qui a été la radio libre en France, puis les radios locales privées. Alors, c'est assez complet quand même. Par contre, c'est dans le chapitre qui s'appelle « Le cas français », justement, quoi. Par contre, quand on commence à nous parler des radios historiques et ici dans le coin, je suis désolé, on va dire qu'il en manque un petit peu.
Vu que éphémère
n'est pas cité. N'est pas cité du tout, hein. Par contre, on cite... On cite Radio Libre Toulouse, qui a débuté ses programmes le 1er juillet 1977, qui est devenu un petit peu plus tard Radio Occitanie, il me semble. Il y a également Barbe Rouge, la radio emblématique de Toulouse.
Oui, mais ça, c'était avant la libéralisation.
C'était avant la libéralisation, mais ce sont des radios qui, après, ont réussi à se faire plus ou moins légaliser, quoi, sous un autre nom, des trucs comme ça, quoi. D'autres n'ont pas eu cette chance, ça, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc, quand il y a eu cette fameuse redistribution des ondes lors de la première session, c'est-à-dire en 81, 82 même, il a fallu attendre jusqu'en 82 pour que ce soit vraiment légal. Hein.
Oui, on avait un petit peu émis avant. Voilà, on savait que ça allait s'ouvrir, donc
on avait fait pareil, hein, nous.
On avait un émetteur qui devait faire 10 watts, donc ou 20, je sais pas. Sur la télé du voisin qu'on recevait très bien la radio.
Tu vois, parce que par exemple, région sud-ouest sont notés Radio Adour Navarre, Radio Golfèche.
Ah oui.
Et Radio Barbe Rouge à Toulouse.
Oui, c'était des radios de militants. et qui cherchait sachant l'expression.
Que, sachant que la première radio pirate à FM en France, c'était Radio Campus à Lille. Et qui a émis depuis c'est 70. Hein, ils sont restés tout le long. Je crois qu'il y avait une
tolérance. Il y avait une tolérance, c'est qu'ils avaient un émetteur qui ne pouvait pas dépasser l'enceinte du campus. Et dans ce cas, ils étaient tolérés. Voilà, c'est la raison toute simple. Ils ne franchissaient pas, les ondes ne franchissaient pas la limite
comme
du campus.
Le nuage de Tchernobyl.
Comme tu disais,
qui dépasse pas la frontière.
Ils avaient un petit émetteur qui devait faire 5-10 watts, et puis bon, voilà, ça marchait. Ouais. Alors que les radios sur les bateaux, la plus grosse puissance enregistrée par une radio sur bateau était quand même de 100 000 watts.
Ah oui, quand même. Ah, là, il faut deux bons générateurs.
Ouais, non, c'est un bateau énorme, nucléaire, en fait.
le fuel que ça bouffe, ça, quand même, t'explique pas.
Et à un côté,
gros nuage au milieu de la mer, c'était la radio.
Alors, on a parlé du bon côté, il y a également les mauvais côtés.
Oui, puisque c'était une guerre entre radios qui allait jusqu'au meurtre.
C'était une guerre qui, jusqu'à la pose de mines pour faire couler les bateaux. Il y a eu des meurtres.
Il y a eu des accostements sauvages.
D'intimidation. Il y a eu des arnaques vraiment mais énormes aussi, hein. Et c'est également ça qui a incité le gouvernement à se dire ok, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, et là on n'est plus dans le domaine de la radio, on est dans le domaine du crime et délit, donc il faut quand même que ça stoppe, ça suffit, faut pas déconner quoi. Le bouquin est vraiment très intéressant pour ça, un peu chiant à lire, ça je l'ai dit au début, mais ça vaut vraiment le coup. On s'attarde surtout sur les gros officiels, hein, Caroline et tout ça. Il y a également tout un chapitre sur au niveau des radios terrestres et du truc français sur le match entre RFM et Énergie au départ et toute l'histoire de Énergie qui est devenue soi-disant la première radio française. Tout ça est très très bien expliqué, hein, parce que Daniel Le Sueur lui est un radioteux comme nous tous ici, mm-hmm. et qui a commencé aussi pratiquement au début, même un petit peu avant, lui c'était un jeune auditeur qui voulait écouter une musique différente et tout ça, et puis quand il a la possibilité de faire la radio, il en a fait, et il travaillait lui à Oblique FM. Oblique FM qui a eu une autorisation d'émettre au début, mais qui s'est fait bouler lors de la seconde séance. On parle également d'un certain Georges Filliou qui a été notre ministre des télécoms, qui a mis plus ou moins tout ce projet en place et tout, quoi. Lui qui était un ex de la radio, hein, qui avait travaillé sur des réseaux comme Europe 1 dans le giron de France Culture, France Inter, fin des années 50, début des années 60, donc c'est un type qui savait plus ou moins de quoi il parlait. Et ce qui est assez rigolo, c'est que son fils, qui est devenu l'un des musiciens d'un groupe de raga assez connu, quoi, qui fait le morceau le raga ça le fait, je me rappelle pas comment il s'appelle, son fils lui également avait créé une radio pirate, mais qui n'avait pas eu d'autorisation d'émettre quand il y a eu la première vague d'autorisation d'émettre, et qui a continué à faire émettre sa radio. Alors ça devait être assez rigolo, quoi, de voir le fiston débarquer à la maison avec le père qui lui était là pour faire la législation en ce qui concerne les radios autorisées, non autorisées, et son fils qui lui dirigeait une radio non autorisée.
Allez papa, légalise it.
Ouais, ça devait rigoler faire, ouais. Pas mal, quoi. Donc un bouquin que je conseille aux gens qui s'intéressent vraiment au sujet, quoi, parce que sinon si vous essayez de le lire. En ce qui concerne ce qui est diffusé, c'est pas tellement le contenu, hein, musical, on s'en doute, hein, y a pas de problème, mais c'est un bouquin très très complet, quoi. On sent qu'il y a eu un gros travail. Et comme dit, hein, on a parlé des plus emblématiques des radios sur bateau, mais je vous dis, il y en a plein d'autres, hein, les pirates israéliens, chapitre 10, plus après d'autres pirates, des pirates, il y a une radio qui s'appelle Radio Kokomi qui émettait en Nouvelle-Zélande depuis très 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 ancienne, qui est restée très longtemps une radio pirate et qui au bout d'un moment ça a été la seule. Il n'y a pas eu d'autres tentatives, d'autres de concurrence, et donc au bout d'un moment ils se sont dit ouais, les gens écoutent que ça et tout, on va la légaliser, il n'y a pas de problème, et puis comme ça ça roule. Bref, plein d'histoires comme
eux,
ça.
Eux c'était particulier très, très parce qu'ils n'avaient pas tenté de faire une radio aussi qui était politique. Il y a eu pas mal aussi d'entrepreneurs anglais de mer du Nord et tout ça, qui avaient tenté de monter des bateaux à destination en fait de Chine. Là ils aient on suppose que là, ils avaient été plus ou moins été soutenus par des autorités, par certaines autorités politiques et tout ça, pour
oui,
trouver
bah,
l'argent.
Y a eu
parce
le...
que eux, c'était clairement le fric qui les intéressait,
oui, oui, on parle,
pas le politique.
On parle voilà. également du bateau qui avait été monté un petit peu par les intellos, Parigo, Libé, tout ça, quoi, et qui avait monté ce bateau à l'époque de Tiananmen. Qui était parti quoi justement
pour aller
quoi,
en Méditerranée, pour aller Chine,
ouais. jusqu'en Chine pour émettre c'était la voie de
la voie de l'espoir je sais plus un truc
non,
comme
non,
ça.
Non 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 de la déesse je sais pas un truc comme ça ça avait un nom un petit peu à consonance chinoise donc et ben en fait il y a eu beaucoup de battages sur ce truc là parce que je savais de quoi il parlait en lisant ce truc là mais en fait ils n'ont jamais émis en direction de la Chine ce qu'ils devaient faire au départ quoi parce que ben ils étaient ancrés en dehors des eaux territoriales chinoises, obligés, d'accord, mais ils étaient juste à côté de Taïwan. Or, Taïwan, qui est en fight avec la Chine populaire, vous voulez pas encore en rajouter un petit peu en autorisant un bateau pirate à émettre en direction de la Chine. Donc, on leur a dit, non, non, vous vous cassez, dégagez, on ne veut pas vous voir. Et de fait, l'endroit où ils étaient passés était trop loin pour que leurs émissions aient de portée. Donc, un projet un petit peu avorté, on va dire, et tout. Enfin bon, ceux qui ont été sur le bateau, paraît-il, se sont quand même bien amusés. Ou ont beaucoup vomi, quoi. Alors, il y a aussi l'anecdote assez rigolote qui est carrément décrite par l'animateur. Je sais pas si c'est Caroline ou une autre radio anglaise comme ça, quoi. Où justement, c'est eux qui faisaient les pubs, hein, à l'époque. Mmh. Les réclames, comme on disait, c'était pas des jingles pré-enregistrés. Alors, il faut aussi savoir...
On peut en passer une, tiens. Mmh. Extrait de Radio London, qui était justement une des radios politiques montées par la droite. Et il les faisait en live, hein, c'est-à-dire... comme le fait maintenant Europe 1, c'est les animateurs qui parlent.
This is the Alita Half Hour, brought to you by Alita, maker of Britain's most fabulous hair products.
Alita takes care of your hair.
Did you know that Alita makes Sunsilk shampoo and Sunsilk hairspray?
Pas le passer en entier, hein, évidemment.
Ah ouais. Alors, il y a l'anecdote, justement, parce que bon, il faut aussi dire que les animateurs qui étaient embauchés sur ces stations, généralement, étaient quand même des animateurs assez bons. Il y avait des discothèques très conséquentes sur les bateaux, des fois des discothèques de plus de 10 000 disques, hein, donc il y avait le choix de diffuser de la bonne musique. Le problème, c'était de pouvoir se faire ravitailler. Il y avait toujours deux bateaux, en fait, hein. Il y avait le bateau qui émettait et un deuxième bateau plus petit qui s'est chargé de faire la navette pour ramener les animateurs qui passaient 15 jours à bord et ensuite ils se reposaient une semaine à terre. En plus, les bateaux qui étaient des bateaux anglais qui diffusaient en direction de l'Angleterre, eh bien, ils ne pouvaient pas partir du bateau et la navette ne pouvait pas accoster en Angleterre. Ils devaient d'abord se rendre en Hollande et puis de la Hollande rallier l'Angleterre pour rentrer chez eux parce que sinon ils étaient considérés comme étant en infraction. Donc beaucoup de choses comme ça quoi qui étaient faites pour et bon bien entendu bon le fait que les bateaux étaient en pleine mer donc bah pas à l'abri des tempêtes, il y a beaucoup de bateaux qui ont été fracassés, les chaînes qui ont chaînes d'ancrage qui ont cassé des tempêtes trop importantes, les bateaux qui se mettent à dériver des trucs comme ça, il y a des bateaux qui ont coulé même et il y a l'anecdote très cocasse d'un animateur anglais qui dit ouais moi j'avais tout le temps le mal de mer et tout, j'ai vomi je sais pas combien de fois et tout, ça m'est même arrivé de vomir en direct alors que j'étais en train de faire une pub vantant les délices d'un salami danois. Bref, ça fourmille un petit peu de petites anecdotes comme ça qui sont assez rigolotes et tout. Tout n'est pas rigolo, hein, c'est vrai. Hein, j'ai parlé des sujets, des vrais sujets qui ont fâché à une certaine époque. Et c'est rien de le dire parce que c'était quand même assez carton. Hein, faut dire que. Mais c'est également parce qu'il y avait des fortes sommes d'argent hein, qui étaient engagées. Hein. Là, les investissements de l'époque pour remonter des trucs comme ça, quoi, c'était l'équivalent du minimum un million d'euros de nos jours, quoi. Donc, c'était pas des petits clampins, quoi, avec 3 francs 6 sous qui pouvaient arriver à monter un truc comme ça, quoi. Alors, il faut savoir que pour contourner la législation, les bateaux étaient toujours enregistrés sous pavillon de complaisance, c'est-à-dire le Panama, Nicaragua, des trucs comme ça. Hein, et l'enregistrement de la licence se faisait dans un autre pays bananier comme le Liechtenstein ou bon mais plus près de nous quand même quoi. Donc de ce côté-là, comme ça les bateaux ne pouvaient pas se faire arraisonner par la marine britannique en disant ouais vous êtes un bateau anglais et tout, on peut venir chez vous quand vous êtes parce qu'à partir du moment où tu es sur le bateau, tu es de nouveau sur le territoire. D'accord. Bon, le capitaine est quand même le seul maître à bord. C'est lui qui dit autorisation de monter à bord effective ou non. Mais il faut savoir que bon bah un bateau c'est une partie prenante du pays qu'il représente, du pays dont le fanion est sur le bateau. Hein. Donc plein de petits trucs comme ça. Alors ils sont arrivés à contourner. Mais au fur et à mesure, on durcissait un petit peu la loi, on rajoutait des petits trucs et tout quoi du côté des opposants. Bref, un bouquin tout à fait sympathique à lire, mais vraiment pour les aficionados du genre. Hein, et ce sera certainement un bouquin collector, parce que avec la faute d'orthographe sur pirate dans la tranche, pirate avec deux R, je veux dire, quand ce sera
mis dans un frigo,
quand ce sera écoulé, il n'y a pas de problème, il ressortira pas comme ça quoi. Donc vous aurez un collector. Ben écoute. Sais-tu qu'il est 13h30?
Ouais, et que Sushi à côté est franchement impatiente. Là, elle kiffe et tout. Mais malheureusement, hop, il reste la télé. Et pour le coup.
Ah, bon, on va la faire vite fait avec un
film. Oui. Bah alors, dans ce cas-là, attends, excuse-moi, mais il y a un disque qui était prévu. Oh. Et quand le lecteur veut. C'est-à-dire en général au bout de 3 quarts d'heure, voilà. Kraftwerk, Airwaves, extrait de l'album Radioactivity. Expliquer pourquoi donc on passe Kraftwerk. Qu'est-ce qui se passe ce soir sur Arte à 22h30?
Ben dans la case du samedi soir de Arte dévolue donc soit aux historiques de musiciens ou de groupes, soit aux tendances hein, qui ont façonné notre siècle culturellement parlant. Il y a eu l'histoire du t-shirt la semaine dernière, des trucs comme ça quoi.
Vraiment, ah oui, d'où ça vient le t-shirt alors en fait?
Ben, je sais pas, je l'ai pas vu.
Ah oui,
j'ai pas vu alors.
Bon.
Mais là, ce soir à 22h30 sur Arte, c'est un documentaire consacré à Kraftwerk.
Ah, putain.
Le seul groupe techno intéressant du monde. Et c'est normal, c'est des pionniers. Ils font partie des pionniers dans cette musique. Ça vaudra certainement son bout de gras parce que Kraftwerk a une particularité, c'est que ses membres originels, déjà, on savait la tronche qu'ils avaient. Parce qu'il y avait la photo sur les disques, mais il faisait très peu de concerts et il ne donnait jamais d'interview. Jamais.
Enfin, les interviews qu'on a, on n'a pas leur voix. Voilà. Donc là, apparemment, c'est la première fois qu'ils vont s'exprimer à la télévision. Donc
voilà.
Ça vaudra le coup. Ah, oui.
Donc c'est ce soir.
Demain, Arte, là, je peux te dire, ils y vont dans la com. Hein.
Demain encore un commissaire Moltalmano inédit, un éclat de lumière également récent hein, qui date de cette année, donc à partir de 20h45 sur France 3. On a un documentaire qui fait suite à ce dont je viens de parler à propos des radios, qui s'appelle Little Big Bower, un documentaire de Pierre Rook qui date de 2011, qui avait déjà été diffusé il y a un petit mois, mais pas sur France 5, me semble-t-il, sur une autre chaîne, et qui parle de l'histoire de Frank Bower. Frank Bower, c'est un mec que vous connaissez tous, vous avez tous entendu le goyot qui fait ici Londres, les Français parlent en français.
Eh bien, ah,
cette voix, c'est la voix de Frank Bower. Frank Bower qui donc, après la guerre, a commencé à fréquenter le milieu, on va dire, un peu bohème de Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, toute cette bande-là, a fait de la radio sur des grands médias à la fin des années 50, début des années 60, Europe 1, RTL, enfin Radio Luxembourg à l'époque, et est devenu a aussi eu sa vie personnelle et également le papa d'un certain Axel Bauer.
D'accord.
Donc c'est demain soir donc sur France 5 à 22h20. On a également un autre documentaire qui peut être intéressant demain soir sur OCS Nouveau en prime time à 20h40. C'est Gonzo, The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson, inventeur du Gonzo Journalisme, documentaire d'Alex Gibney en 2008. Lundi, on a des requins dans six filles avec tout d'abord à 20h45 le Shark Attack 2 de David Worth.
Non, là, c'est les stylos qui attaquent, je les envoie sur Sushi.
Et à 22h20, Jersey Shore Shark Attack, des requins dans le New Jersey.
Dans le New Jersey, oui.
Avec Jack Scalia, donc film de 2012. Mardi, on a un excellent... Alors ça, c'est une curiosité dans le cinéma américain. Le cinéma américain a quand même inventé deux genres qui lui sont propres, le western et la comédie musicale au cinéma. Et là, ben, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'au départ, ça a été une comédie musicale à Broadway et ça a été adapté en film. Sauf que c'est un western avec Lee Marvin, Clint Eastwood, Gene Seberg... Et alors donc c'est assez rigolo de voir un western à un moment donné, bah, ils se mettent à chanter.
Et Clint Eastwood chanter alors.
Clint Eastwood est un très très bon chanteur de blues, attention.
Mais surtout Lee Marvin dont dans le tube I Was Born Under a Wandering Star a été un tube même au top 50, enfin à l'époque ça s'appelait pas comme ça. Ouais. Le film est sorti en 69, donc en 70, eh bien ce morceau figurait dans les hit parades des radios françaises et en très bonne place. Je sais que je l'ai entendu, je sais pas combien de fois quoi à la radio quoi. On a également Fritz Lang sur TCM mardi à 22h20 avec Human Desire avec Glenn Ford et Gloria Graham, un film de 54. Mercredi, on a Anaconda 3 sur Energy 12, c'est une soirée reptile hein, sur Energy 12. D'abord Anaconda 3 de Don Fauntleroy avec David Hasselhoff, Crystal Allen et Jonathan Rhys Davis. Faut dire que bon, bah, Ice Cube, il est mort dans le 2, donc il pouvait pas revenir pour le 3.
Et David Hasselhoff est resté, lui. C'est triste.
Mais non, il n'était pas dans les deux premiers. Et suivi à 22h30 de Megapython versus Gatoroid de Marie Lambert, quoi. Alors, celui-là, il passe souvent, hein, quand même.
Gastéropode?
Non, Gatoroid. En fait,
c'est un alligator, d'accord. Je croyais que c'était un escargot géant.
Oui, mais c'est un alligator, c'est-à-dire que, comme il y a le
Vous savez ce qu'il y a 7 neurones et 20 000 dents? Un escargot. Ça marche aussi avec Jean-Marc Morandini.
Oui, mais le Mégapython, donc c'est Ulule méchant. Et puis bon, pour.
T'es en train de comparer Jean-Marc Morandini à un escargot, donc.
J'essaie de vous parler de ce
putain. Si on résume.
C'est vrai, ouais.
J'essaie de vous parler de ce putain de film. De toute façon, vous verrez pas, quoi. Tellement c'est nul. Mais parce que bon, en fait, le Mégapython, c'est le méchant. Et alors, donc, l'armée, ils se disent, pour combattre le Python, on va fabriquer un alligator génétiquement modifié.
Bah oui, c'est d'une logique imparable.
Ah ouais.
Faut soigner pour les ricains, toujours. Feu par le feu.
Pour les ricains, toujours. On a mercredi sur Sci-Fi, Bienvenue à Zombieland. Tout de suite, regarde. Trop bien. Ça, c'est un film que tu peux voir 50 fois, il n'y a pas de problème. Culte, des scènes cultes pratiquement toutes les 5 minutes. Ça, c'est vraiment du cinéma comme on l'aime, qui s'embrouille pas, ils ont pas de problème. Allez, on y va, on fonce. Et un Woody Harrelson en pleine forme. On a également sur FX, mercredi, La Quatrième Dimension, film avec John Landis, Stephen Spielberg, Joe Dante,
l'omnibus, c'est ça.
Et George Miller. Ouais, George Miller, hein, c'est bien ça, quoi. Sympathique, hein, ils ont repris des épisodes de la Twilight Zone et ils ont adapté. Et c'est vraiment super bien. Jeudi, Dino Shark, ça c'est sur Sci-Fi toujours, avec Eric Balfour. S'il y a Eric Balfour dedans, ça vaut le coup de regarder quand même, quoi. Juste comme ça, hein. Et sur Polar, Red Riding 1980 de James Marsh. Ça c'est avec Warren Clark, Patty Considine, James Fox, Eddie Marsan. Il faut dire que c'est tiré d'une trilogie écrite par l'auteur anglais David Peace, qui nous avait fait 1977, ensuite 1980 et ensuite 1984, des meurtres d'enfants dans le Yorkshire. Alors on a vu le premier, là, 77, qui est passé avant-hier, avec Andrew Garfield dans le rôle titre. Andrew Garfield qui est le nouveau Spider-Man, hein, mais également Eddie Marsan. Il y a également Sean Bean. Ça a été sorti en 2009 par Channel 4, c'est cette trilogie. Et donc, il va y avoir 1984 la semaine prochaine. Et David Peace, après, il a encore fait un bouquin qui s'appelle 1980 et il a sorti le Damned United 44 jours dont j'ai que j'ai chroniqué ici, hein, qui parle des d'un certain entraîneur de foot qui est passé à l'ennemi en ralliant Leeds alors qu'il venait de Sheffield. Jamais il faut faire ça, quoi. Et
tout le monde sait que la route depuis, est piégée entre les deux.
Ouais, ouais. Et depuis, il est exilé au Japon. Il nous a sorti Tokyo Année Zero et Occupied City, qui est un bouquin absolument renversant, quoi. Vendredi, je termine avec Valander. Alors, excellent, hein, là, la nouvelle mouture de
putain,
Valander.
Elle est waouh.
Alors là, déjà l'adaptation de la petite nouvelle de hier soir, eh ben,
ouais, et puis Valander ramène du boulot à la maison, hein, on trouve du cadavre dans son jardin.
Ouais, ouais.
Non, vraiment, c'est la qualité cinématographique de la BBC.
Il faut pas promener le chien le soir. Faut pas promener le chien. Le
non,
soir.
Franchement, très, 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 très bien.
Et il faut pas se défendre et essayer de dégommer les chiens parce que c'est pas bon, quoi. On se prend des coups de masse dans la gueule.
Ah, la scène, elle est choque, hein, quand même.
Ah ouais, ouais. Bon, bah, non, mais c'est vraiment très, très bien. Bien qu'il soit là avec une nouvelle équipe, c'est-à-dire il y a plus l'ancienne équipe dont Tom Hiddleston. Loki, qui joue maintenant le rôle de Loki dans les Thor, hein,
ah, oui,
qui était un des adjoints de Valander dans la série de Kenneth Branagh, donc, mais ça roule quand même, hein, c'est vraiment très très bien. Donc vendredi prochain, soyez devant votre poste et devant Arte, et juste après il y a Borgen en plus la rediffusion, donc ça va, quoi. On termine avec sur FX, eh bien, un film dont tu vas me parler parce que toi t'es plus au courant que moi des films d'animation japonais. Aïe. C'est Ken 1, l'ère de Rao.
Eh ben non,
de
pas
Takahiro
vu.
Imamura en 2006.
Oh,
eh ben, ce sera l'occasion pour toi de le voir. Et ce sera tout donc pour la télé de cette semaine-ci. Une petite série qui démarre aujourd'hui sur M6. Ça s'appelle Touch, avec le retour de Kiefer Sutherland. Mais là, bon, c'est pas du tout Jack Bauer. Hein, c'est plutôt lui qui s'en prend plein la gueule généralement au début, quoi. Avec également David Mazouz qui joue le rôle de son fils et Danny Glover. C'est créé par Tim Kring, c'est-à-dire le mec qui nous a fait Heroes.
D'accord, ok.
Ouais. Et le pitch est un petit peu difficile à développer, donc je vous laisse à vos programmes de télé pour voir ce que c'est, ou alors à vous laisser tenter par l'inconnu.
À 20h50.
C'est à 20h50.
Par
ce
pack
soir.
De 18.
Non, par pack de 3. Il n'y a que 12 épisodes de cette série.
Hein, donc ok, ce sera torché d'ici mi-août, mi-octobre. Pardon.
Tout à fait.
3 decades of great music for Europe. This is Radio Caroline.
La fameuse cloche de Caroline, donc la cloche de bord qui signalait les news.
Well, very good morning if you've just joined us. You're listening to Caroline 819, the morning breakfast program, of course, with myself, Paul Declan, with you till 9 a.m.
Donc il annonce la fréquence, mais on se demande pourquoi il annonce, tout simplement parce que c'était la dernière émission de Caroline, donc la dernière heure.
He normally takes about half an hour to get up himself. Here at Toto now, going back to 1982 and Africa.
Oula, on se prend une claque, hein, les gars.
I'd be interested to find out what Ray Davis thinks of that. Wonderful stuff. Radio Caroline address, if you'd like to write to us, is PO Box 491A31, Fort Lauderdale, Florida.
Voilà, c'était donc une émission où on parlait des radios pirates d'une certaine époque. Merci Sylvain d'être venu.
Avec plaisir.
Donc tous les mardis à 21h,
oui,
si je me
oui.
trompe, disponible en podcast aussi, puisque tu es l'artisan de la fameuse machine.
Oui, mais qui n'est pas accessible aux joyeux auditeurs.
Pas encore. Je crois qu'il va falloir régler sa rossature à nouveau.
Ah merde.
Oui, je profite qu'il y ait le technicien à bord. Voilà, non mais je sais, je vais passer derrière, tu me files les clés, je vais baisser le son et puis voilà, ça marchera très bien.
Ouais, ok.
Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Si vous avez manqué le début de cette émission, eh ben on a parlé de Justin Bieber en tant que ex-Robin, on a parlé bien évidemment des nouveaux festivals de la rentrée qui sont à l'antenne sur Radio FMR. On a parlé bien évidemment d'un polar au Japon et on a parlé de ces ondes pirates. Et si vous avez manqué tout ça, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet de l'émission supplementweekend.fr pour réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi profiter peut-être, je ne sais pas, pour en écouter les anciennes, voire nous écrire, n'hésitez pas, c'est facile et c'est gratuit, supplementweekend.fr. Et n'hésitez pas un peu à vous dire si vous aimez ou si vous aimez pas et ce que vous attendez dans le prochain générique. Si vous le saviez. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. vous écoutez donc FMR 89.1. De suite, c'est du sport et sushi. Nous sommes en direct et aujourd'hui jusqu'à 18h, puisqu'à partir de 15h, nous sommes au Festival de Ramonville. Et nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine à partir de midi, samedi, pour le supplément week-end, comme d'habitude. Merci à vous, ciao, bye bye. Merci de votre audition et merci de bien nous recevoir. Oh là là, qu'est-ce qu'on est confortable dans cette oreille.